Voilà déjà 3 ans que le célèbre acteur Jean-Pierre Marielle, touché par la maladie d'Alzheimer, nous a quittés. Sa femme, la comédienne Agathe, donc Nathanson Marielle, par respect et par amour pour lui, s'est engagée dans la fondation Recherche Alzheimer. Elle est aujourd'hui notre invitée. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement et de l'applaudir. Bonjour Agathe, prenez place. Vous avez découvert la maladie très tôt avec votre maman, qui a été malade, elle aussi, Alzheimer, dès 50 ans. Quel souvenir vous gardez de Jean-Pierre ?
Je garde pas un souvenir de Jean-Pierre, je garde Jean-Pierre. Je veux dire, c'est pas un souvenir, c'est toute une vie, c'est tout un amour, c'est tout un long parcours avec cette maladie, donc... j'ai pas un souvenir, j'ai Jean-Pierre.
Comment vous avez pu l'accompagner, l'aider, en lui donnant et en lui disant ses textes à l'oreillette, mais chez vous, comment vous l'accompagnez dans cette maladie ?
Je pense que profondément, pour accompagner quelqu'un qui a cette maladie, il n'y a qu'un mot qui peut être le moteur de ce qu'on peut faire et vivre, c'est aimer. Je veux dire, sans amour, on ne peut pas accompagner quelqu'un qui a cette maladie. Parce que c'est un combat de tous les moments. Ça peut être extrêmement violent. Et si on n'aime pas profondément et très sincèrement, il faut passer la main à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire aux aidants professionnels, effectivement, si on peut. Mais si on veut garder quelqu'un chez soi et... Il n'y a que l'amour qui peut vous aider et qui peut vous transcender pour l'accompagner jusqu'à la fin. C'est dur, c'est très dur. Mais si on aime, on ne compte pas.
Vous avez dû, malgré tout, à un moment, le placer dans une maison.
C'est-à-dire que ce n'est pas à un moment. J'ai dû, effectivement, la dernière année... le mettre dans un EHPAD, enfin dans une structure qui pouvait s'occuper de lui mieux que moi. J'avais toujours dit jamais, 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 jamais. Et puis Jean-Pierre était devenu très violent pour moi, qui vivais avec lui donc 24 heures sur 24, et violent pour lui-même, c'est-à-dire qu'il prenait d'énormes risques. On s'est retrouvés plusieurs fois aux urgences, en pleine nuit, on s'est retrouvés lui blessé assez violemment par... des excès, soit des excès de violence contre lui-même, soit des chutes. Donc le docteur m'a dit, tu ne peux plus le garder chez toi, ce n'est plus possible. Il faut absolument qu'il aille quelque part où on va s'occuper de lui et avoir une surveillance. C'est même pas une surveillance, quelque chose que quand on n'est pas un professionnel de santé, on ne peut pas faire. Jean-Pierre était grand, Jean-Pierre physiquement n'avait rien perdu de ce qu'il était, ni son poids, ni sa force, ni sa stature. Moi, je ne suis pas très grande, pas très grosse, donc quand il tombait, moi, je ne pouvais pas le ramasser, je ne pouvais pas le relever. Quand il était violent vis-à-vis de lui ou de moi, je ne pouvais rien faire, j'étais impuissante. Donc oui, la chance que j'ai eue, parce que c'est extrêmement violent, bien sûr, de mettre quelqu'un dans une structure, c'est très, très... C'est plus que perturbant, ça vous détruit. De mettre quelqu'un que vous aimez dans un endroit où il ne va plus être avec vous, où vous n'allez plus vous occuper de lui. La chance que j'ai eue, c'est que Jean-Pierre n'était plus du tout conscient. Donc il ne s'est pas du tout aperçu qu'un jour je l'amenais avec sa petite valise dans un endroit et que je le laissais. Et on m'avait dit, mets des tableaux, décore la chambre. J'ai dit non, on ne décorera pas la chambre, on ne mettra pas de tableau, on mettra 3 photos. Le reste, il s'en apercevra pas. Donc, je ne vais pas l'installer dans un univers qui n'est pas le sien. Il est entré dans un autre monde. Il est ailleurs complètement. Laissons-le ailleurs, puisque de toute façon, on ne peut plus le récupérer. Et il est resté un an dans cette structure qui était très, très bien. On s'est très, très bien occupé de lui. J'y allais quasiment tous les jours et j'apportais ce qu'il aimait, des jus de fruits, des yaourts, enfin, des bêtises. Pour me faire croire à moi-même qu'il existait encore, en fait.
À travers vos mots, on comprend que il y a des dommages collatéraux pour vous aidant avec cette maladie. Vous, votre rôle, ça a été de vous adapter finalement tout au long de la maladie de Jean-Pierre, c'est ça ?
M'adapter, non, pas m'adapter. Ça a été de suivre le cours de ce fleuve qui nous entraînait dans des abîmes épouvantables. Je ne veux pas essayer. Vous tous, je pense que vous êtes concernés de près ou de loin par cette maladie, effectivement. Je pense, moi, profondément, que ce n'est pas la peine d'embellir les choses et de se dire « mais non, ils sont bien, ceci, ce... » Non, je pense que quand on a cette maladie, et je l'ai vu pour ma mère et je l'ai vu pour Jean-Pierre, qui avait deux réactions totalement différentes. Ma mère était retombée totalement en enfance, donc elle n'était pas du tout agressive, elle était extrêmement passive, et ce que n'était pas Jean-Pierre. Mais je pense qu'on ne peut pas enjoliver. Donc non, on ne s'adapte pas, on regarde, on constate, on est dépassé. On se récupère pour ne pas être dépassé, pour pouvoir aider au maximum. Donc, on n'a pas le temps de penser à soi, en fait, ni de s'adapter, ni de ne pas s'adapter. On est sur l'autre, uniquement sur l'autre.
Et comment améliorer sa qualité de vie ?
En l'aimant, en essayant de lui donner un maximum d'amour, de tendresse, d'aide, ce qui est très difficile. Je veux dire, je ne suis pas une sainte. Il y a eu des moments où je me suis énervée parce que on est complètement dépassé par certains comportements, par certaines choses, et on se dit mais c'est pas possible, il ne va pas faire ça, c'est pas possible, et il le fait. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On est là, on regarde, on assiste, on est impuissant. Quelquefois on s'énerve, c'est vrai, quelquefois, et il ne faut pas s'énerver, il faut se dire que la personne est malade, elle n'y peut rien. Mais voilà, donc on honnêtement, franchement, pendant tout le temps de la maladie, et quand la maladie est vraiment bien avancée, on ne pense plus à soi.
Mais comment vous avez trouvé cette énergie ? Parce que là aussi, on a des aidants comme vous qui soutiennent un malade. Il faut aussi penser à un moment donné à soi pour pouvoir trouver de l'énergie et aider le malade.
Bon, alors moi, je suis bien consciente que j'étais privilégiée. Je veux dire, j'étais aidée à la maison, j'avais les moyens, tout le monde ne les a pas, mais c'est vrai qu'on les avait, de pouvoir que certaines personnes viennent prendre le relais. Mais certaines personnes, c'est aussi très compliqué parce que le malade refuse les certaines personnes. Le malade, il veut sa moitié ou son père ou sa mère ou son fils, enfin il veut
quelqu'un de proche,
profondément quelqu'un de proche, et les autres il n'en veut pas. Alors bon, j'avais quand même la chance de pouvoir m'évader, sortir un peu dans la journée, sortir même éventuellement le soir, donc d'avoir des moments de respiration, et tout le monde n'a pas, j'en suis extrêmement confiante, cette chance là il y a aussi le cas des personnes qui pourraient éventuellement avoir un peu des soupapes de respiration et qui les refusent, qui se disent non, 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 je ne peux pas le quitter, même 2 heures, même 1 heure, non, 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 je reste avec lui. Non, ça, il ne faut pas. Il faut de temps en temps sortir, marcher, promener son chien, boire un chocolat, manger un gâteau, juste pour reprendre un peu d'énergie. Et ça, c'est vraiment indispensable aussi.
Agathe, vous êtes engagée dans la Fondation Recherche Alzheimer. Cet engagement, pour vous, il était évident. Quel rôle vous jouez ?
Non, il n'était pas évident parce que je me suis engagée dans la fondation il y a 14 ans, je pense, déjà. Et c'est une de mes amies, Véronique de Villèle, qui était, elle, au tout début de cette fondation, qui m'a dit qu'elle était, comme moi, je venais, enfin, ma mère avait donc eu cette maladie. Je lui ai dit, oh, ben, moi, je veux bien y aller, je veux bien coller des timbres sur les enveloppes. Enfin, bon, je ne sais pas faire grand-chose, mais ce que je peux faire. Et puis, petit à petit, j'ai pris plus de responsabilités dans la fondation. Et puis, ça m'a plu de m'engager pour qu'effectivement, un jour, c'est le docteur de la Doucette qui dit ça, et c'est extrêmement juste, il faut qu'un jour, on puisse dire vraiment, j'ai eu la maladie d'Alzheimer, et pas j'ai la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir eu cette maladie, s'en sortir, plus ou moins bien, ça je ne sais pas, mais pour voir vivre normalement ou quasiment normalement, chose qu'effectivement, actuellement, ce n'est pas. Donc, effectivement, je me suis engagée pour être un tout petit maillon de la chaîne et essayer de faire... Alors, j'ai un peu de chance parce qu'avec les relations que j'ai, je peux aider pour que nous fassions des galas qui permettent de faire des levées de fonds importantes pour que les gens fassent des dons. Enfin, voilà, partout où je peux être pour aider... pour que effectivement on puisse récupérer un peu des sous, hein. En fait, c'est ça le truc, c'est récupérer un peu de sous pour pouvoir aider les chercheurs et que ça progresse.
Et puis ne plus avoir honte aussi de cette maladie, comme vous le disiez dans le reportage.
Oui, tant que la maladie est là, oui, on a honte. On a honte, je me souviens avoir eu honte de ma mère parce qu'elle allait chez le boulanger et puis, je ne sais pas, elle laissait, c'était des francs à l'époque, elle laissait 50 francs, voilà, et le boulanger, moi je passais derrière et j'entendais la boulangère qui disait « Oh là là, elle est folle celle-là », enfin, ou des choses extrêmement blessantes. Donc oui, on a honte. On a honte parce que d'abord, les personnes ne sont plus du tout elles-mêmes, donc ils sont plus du tout, ils sont complètement défiltrés, donc ils peuvent faire des choses qui font honte, oui, qui font honte, donc on a honte, c'est vrai. Enfin, moi, j'ai eu honte, en tout cas.
Et comment comprendre cette maladie ?
On peut pas comprendre. On peut pas comprendre. C'est quand vous voyez quelqu'un qui, petit à petit, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des mois, se perd, n'est plus lui-même, quelqu'un qui perd toute notion de pudeur, notion de gentillesse, qui n'est plus lui-même. Quand vous voyez quelqu'un qui tout à coup se désagrège pour devenir une sorte de pantin que vous ne connaissez pas, que vous ne reconnaissez pas et que vous n'avez pas envie d'aimer parce que c'est pas ça que vous aimiez, c'est pas cette personne-là. Et malgré tout, il faut l'aimer. Il faut continuer de l'aimer.
C'est l'amour. C'est ça le message que vous vouliez faire passer aujourd'hui, ici,
pour moi, oui.
Pour soutenir.
Moi. Alors, il y a un très joli texte. Je ne vais pas tout vous lire, le texte, mais une partie de ce texte que moi, je trouve extrêmement beau et qui résume parfaitement ce qu'est le malade et ce que peut être l'aidant. Et ce texte dit « Ne me demande pas de me rappeler. N'essaie pas de me faire comprendre. » Laisse-moi me reposer et fais-moi savoir que tu es avec moi. Je suis triste, malade et perdue. Tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin de toi. Ne perds pas patience avec moi. Rappelle-toi que le meilleur de moi est parti. N'abandonne pas. Reste à mes côtés. Aime-moi jusqu'à la fin de ma vie. Et je pense que ça résume parfaitement ce que vous tous, vous devez vivre.
Bravo et merci Agathe pour ce témoignage.